jusqu'à 14h. On en jase.
On en jase, votre show du midi sur Boulevard 101 de midi à 14h. Le retour de Gravel, Audrey, le retour de la Côte-Nord, Pascal va suivre avec Audrey, Denis et Véro. En passant, Nathan Meilleur a fait un excellent travail les deux derniers jours. J'ai pris une discussion qu'ils avaient sur la lecture hier et j'ai adoré. C'est disponible évidemment sur le blvd.fm. Météo 0 degré à l'heure actuelle, alternance de soleil et nuages. Moins 1 degré demain ensoleillé, 0 degré avec de la neige prévue pour vendredi. Pascal,
oui.
Éclipse médiatique avec Pablo Rodriguez et le Parti libéral du Québec. Mais avant d'aller rejoindre Lambert Drainville, qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actualité?
Oui, c'est sûr que là, il y a peu de nouvelles qui intéressent les gens actuellement quand on a une éclipse médiatique comme ça. Par contre, il y en a une à Québec qui est énorme et qui intéresse beaucoup de gens d'affaires, beaucoup d'entreprises. C'est dans la saga avec Stéphane Huot, OK?
Oui.
On spéculait que les deux hommes, ben, en fait, n'avaient pas tant travaillé ensemble dans tous les stratagèmes qui étaient allégués là, envers le duo. Robert Giroux, qui est un peu son bras droit, disait toujours qu'il ne savait pas ce que Stéphane Huot avait fait, finalement, réputé homme d'affaires, mais réputé maintenant pas pour les bonnes raisons.
Ouais, exactement.
Robert Giroux officiellement est condamné à verser 128 millions de dollars au millionnaire qui l'a entraîné dans la chute du groupe Huot. C'est un jugement sans équivoque. On n'est pas allé de main morte. Le tribunal donne raison aux millionnaires victimes de fraude de type Ponzi puis de manœuvres trompeuses. Je sais qu'il y en a qui festoient aujourd'hui. Avec raison, ça a été super difficile. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on est dans le dossier facilement. Donc, on a des manœuvres trompeuses, la gestion dans l'ombre de fonds de nombreux investisseurs millionnaires qui ont fait confiance au groupe Huot et qui a entraîné des débâcles, des dérives, qui a enivré des difficultés importantes. Ça a été un procès de plusieurs phases qui s'est étiré sur un an au total. Le juge Jocelyn Geoffroy qui a donné raison aux investisseurs qui avaient été floués dans une décision de près de 200 pages hier. Ceux qui ont été désignés comme les millionnaires de Québec réclamaient à Robert Giroux 130 millions de dollars. C'était le cumul de leurs pertes dans Q12 et Fitch. C'était deux fonds mis sur pied par l'homme d'affaires pour des prêts au développeur immobilier Stéphane Huot. Alors, on convainquait des hommes d'affaires, puis finalement, on les flouait littéralement, puis on leur faisait perdre.
Donc, Robert Giroux faisait partie du stratagème.
Du stratagème, puis il a toujours nié que, bon, mais voilà. Sinon, dans Québec, encore une fois, fermeture aux Galeries de la Capitale, une autre fermeture, bientôt la fin pour Toys R Us à Québec.
Oh,
on vient
dommage.
D'apprendre ça, donc la fin pour Toys R Us, alors que les employés de la succursale des galeries ont appris récemment qu'on allait fermer les portes près d'un an jour pour jour après la fermeture de celle sur le boulevard Laurier. Alors, on n'a pas plus d'informations. Ouais. On sait qu'on a placardé.
J'imagine qu'on va sûrement faire la période des fêtes. Même pas, on a placardé.
On a placardé, en fait, d'affiches. C'est là où j'allais avec des réductions jusqu'à 30 là. Donc, on travaille sur une offensive, je pense, de liquidation. Puis ça va avec Babies R Us aussi. Hein. C'est un magasin qui était en deux pans comme ça. Crime organisé, le nouveau El Chapo, un ex-Montréalais. Moi, je veux te le dire, dans les dernières heures, le nombre de nouvelles par rapport au crime organisé, Tupac arrêté à Montréal, mais pour des activités du côté des États-Unis. Mmh. Arrêté par la Gendarmerie royale et le FBI après une histoire de meurtre à Medellin, en Colombie. Si vous ne pensez pas que c'est dans notre cour, là, ce qui se passe au niveau du trafic, c'est là, puis pas à peu près. Si c'est pas dans votre cour, c'est dans le nez du monde autour de vous. Je dis ça, je dis rien, mais dans les nouvelles au niveau du crime organisé, on a aussi... cet ex-athlète olympique montréalais qui comparait à El Chapo et à Pablo Escobar par le patron du FBI.
C'est
alors, c'est Ryan James Wedding.
Il a commandé des meurtres partout dans le monde, je pense. C'est ça que j'ai lu? J'ai lu rapidement.
Narcotrafiquant canadien qui a habité à Montréal. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 pour l'équipe nationale de surf des neiges. La nouvelle incarnation de Pablo Rodriguez. C'est un peu capoté, cette histoire-là. Ça sera peut-être un autre documentaire à suivre, mais c'est pas tous les jours qu'il y a des dirigeants de l'administration de Donald Trump qui donnent une conférence de presse à Washington pour annoncer qu'il y a un criminel canadien qui a résidé au Québec, qui est devenu l'ennemi public numéro un aux États-Unis. Alors, beaucoup qui ont été appréhendés aussi dans cette histoire-là, puis ça fait partie de ça, Tupac, le cahier de Montréalais. Donc, on ne fait pas belle presse à l'international. L'organisation de Ryan James Wedding, c'est 60 tonnes de coke par année.
Aïe, aïe, aïe!
60 tonnes.
Comme tu dis, c'est dans le nez proche de chez vous.
Dans
ça
un
que
t'as
dit tantôt, hein?
Un nez projet chez vous.
C'est ça, exactement.
On va suivre ça.
Pendant que Pablo Rodriguez continue de se démener avec la presse et leurs nombreuses questions, on va aller rejoindre Lambert Drainville, notre chroniqueur que vous pouvez entendre sur nos ondes à chaque mercredi aux alentours de 13h et le vendredi à midi dans un format débat avec Farnell Morisset. Lambert Drainville, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. J'imagine que ça va mieux que Pablo Rodriguez.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec présentement pour qui ça va moins bien que Pablo Rodriguez et ses fidèles acolytes du Parti libéral, mon cher Jeff.
Bon, t'as écouté la conférence de presse comme nous, à tout le moins le début. Je voudrais savoir, parce que t'as déjà été justement à l'interne dans les partis politiques, c'est-tu normal que le chef ne sache pas pourquoi il y a un employé qui a été congédié?
Non, c'est pas normal. Puis c'est pour ça que là, on s'attendait à avoir des réponses au courant de la journée aujourd'hui après la bombe qui est parue dans le journal ce matin concernant des échanges textos. Il serait, faut le dire, là, ce qui serait de véritables textos envoyés entre deux véritables députés. Les noms d'une députée de la CAQ et d'une députée libérale ont été soulevés. Mais depuis ce matin, ces deux députés-là nient avoir quoi que ce soit à se reprocher. La directrice de cabinet de Mme Risky, qui a été mise à la porte, nie également avoir commis quelconque forme de faute. Et là, on vient de terminer le point de presse de Pablo Rodriguez, qui nie sur toute la ligne. Alors, on n'a pas les réponses auxquelles on s'attendait depuis ce matin. Là, il y a une enquête qui a été lancée. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, ce genre d'enquête-là externe pour effectivement voir s'il y a des méfaits qui ont été...
Lambert, il faudrait que ça soit rapide, parce qu'on ne peut pas s'en aller en campagne électorale avec cette épée de Damoclès de corruption qui pend au-dessus de notre tête. Là. Ça va être un résultat catastrophique.
Ouais, puis ben honnêtement, si je suis dans les souliers du Parti libéral, je veux que ça se fasse au plus sacrant, là, tu sais, surtout si, comme il semble l'avouer, il était pas au courant de rien. En même temps, c'est difficile à croire, Jeff, là, tabarouette, tu sais, la fameuse expression, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Là, tu as une députée, la députée la plus populaire de ton caucus, une légiste, une fille chevronnée qui met sa directrice de cabinet dehors sans avertir son grand chum, le chef du parti, Pablo Rodriguez. Ça, déjà, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Là. Puis quand j'ai dit qu'on avait entendu les versions de tout le monde, la seule personne de qui on n'a pas entendu sa version, ça demeure Marois Risky. Voyons voir si elle va faire connaître sa version des faits au courant des prochaines heures. Mais hier, elle n'a pas adressé quoi que ce soit aux médias. Et c'est la seule dont on n'a pas entendu la version, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur non seulement qu'est-ce qu'elle a fait, sa directrice de cabinet, mais comment, dans quel monde est-ce que t'es la chef parlementaire du parti et tu n'informes pas ton chef avant de faire un geste de cette envergure-là? Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent concernant cet aspect-là spécifiquement. Et évidemment, tout le reste de l'information, je veux dire, les textos, ça a été corroboré par le Journal de Montréal qui avait cette information-là. Jonathan Trudeau du 98.5 et 93.3 à Québec, qui a également dit que selon lui, c'est des textos que plusieurs personnes, plusieurs élus avaient déjà vu circuler. Certains parlent que ça circulait depuis le mois d'avril. Et là, tout le monde nie tout. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui ment. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui ment. Et malheureusement, comme tu le dis, dans l'intervalle, alors qu'on n'a pas la vérité, c'est sûr que s'il y a bien quelqu'un à qui ça fait mal, c'est Pablo Rodriguez, c'est le Parti libéral, parce que s'il y a un parti dans les partis politiques québécois qui n'a pas cette marge de manœuvre-là de marcher sur la ligne de l'éthique et de la collusion-corruption, évidemment que c'est le Parti libéral, on s'entend.
On s'entend là-dessus, c'est certain. Beaucoup sont fâchés, en fait, des anciens de la politique ou des gens qui travaillent très près de la politique, du comportement de Marois Risky puis de la décision qu'elle a prise dans le dos de Pablo Rodriguez quand c'était pas nécessairement dans ses fonctions de le faire. Par contre, quand on va voir dans l'opinion publique, puis nous, on est bien placés pour lire les textos des gens et tout ça, on se rend compte qu'il y en a qui se disent « OK, mais est-ce qu'elle avait peut-être des informations que plusieurs n'ont pas et que c'est pour ça qu'elle a pris cette décision-là, puis elle ne pouvait pas le faire sans se permettre de passer par-dessus Pablo Rodriguez parce qu'il était impliqué. Puis avec la journée d'aujourd'hui, ça vient un peu corroborer les spéculations de certains auditeurs. Écoute, on a très peu d'informations, on ne sait pas qui dit vrai non plus, mais c'est à se demander si elle n'avait pas le choix de passer par-dessus Pablo Rodriguez à un moment.
Bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir sa version des faits. Parce qu'on se demande, c'est quoi la raison pour laquelle elle n'a pas informé le chef? Et évidemment, une des hypothèses de ça, c'est qu'effectivement, le chef étant si impliqué personnellement, comme c'était son ancienne chef de cabinet dans son ancienne vie quand il était ministre au fédéral, peut-être qu'elle se disait, y a pas, il n'existe pas un monde dans lequel je l'informe en amont. Il ne voudra jamais accepter cette décision-là. Donc, je n'ai pas le choix de faire cavalier seul. Mais pour prendre un risque de cette envergure-là,
C'est
pour
ça.
une fille qui ne se représente pas en 2026, pour une fille qui est tellement aimée de la population québécoise et qui pouvait juste surfer jusqu'en octobre 2026, pas trop faire de vagues et quitter la tête haute, de prendre ce risque gigantesque-là en sachant très bien, encore une fois, elle est chevronnée, quelles seraient les conséquences de passer par-dessus la tête de son chef. Pour moi, effectivement, Pascal, j'en comprends pas. Puis il n'existe pas un monde dans lequel elle n'a pas une information grave et importante que les autres n'avaient pas pour agir de la sorte. Je peux pas croire qu'elle a joué aussi gros simplement pour un conflit de personnalité
Ben,
avec la directrice
c'est
Cormier.
exactement ce que je pense. Moi, je pense qu'elle a une bombe entre les mains parce qu'elle est accompagnée d'avocats et Marois Risky, puis là, je vais prendre pour les deux partis là, qu'on connaît le plus, le Parti québécois puis le Parti libéral. Marois Risky, elle est tatouée rouge. Puis quand t'es tatoué rouge, Parti libéral, comme quand t'es tatoué bleu, PQ, ce que tu veux avant tout, c'est la santé de ton parti. Et là, j'ai l'impression que elle ne pouvait pas continuer à fermer les yeux et voir son parti dépérir plus tard. Elle a dit, je vais prendre la balle au bond, puis je vais enfin enlever ce qui traîne dans mon parti qui sent mauvais, là.
Ben, c'est ça. Moi, c'est la seule hypothèse qui, pour l'instant, là, encore une fois, on est en attente de quelconque forme d'information. Encore une fois, tout le monde nie tout. Tu sais, y a aucune autre hypothèse qui fait du sens pour moi que celle-là, JF, de dire il y a quelque chose de grave qui s'est produit, qu'elle n'était pas en mesure de cautionner, parce que c'est une femme issue du milieu du droit, c'est une femme qui est très droite. Elle l'a prouvé à de multiples reprises. Et là, dans la rencontre avec le chef, moi, ce qu'on m'a communiqué comme information, c'est que ça a été une rencontre de 10 minutes où il s'est pratiquement rien dit, là. Marois est arrivé avec son avocat et c'était « J'étais avec mon avocat, je peux pas vous en dire plus, voici ce qui s'est passé. » Puis il n'y a pas grand-chose qui s'est dit là à part « Je peux pas parler, puis c'est pour ça que mon avocat est avec moi, etc., etc. » L'autre chose aussi, c'est que elle était très populaire, Marois. Elle est encore très populaire auprès de la population. C'est évidemment ce qui fait énormément mal. Il y a Marois, il y a évidemment la réputation du Parti libéral et le lien qui est facilement faisable avec les anciens scandales. Ces deux éléments-là font énormément mal. Mais à l'intérieur du caucus, sachez, messieurs, dames, que c'était quand même pas une personnalité qui, disons, plaisait à tous. Évidemment, c'est une femme qui avait beaucoup d'exposure, qui avait beaucoup de lumière, beaucoup de visibilité, quelqu'un qui avait beaucoup d'envergure. Et moi, à avoir parlé avec certains membres à l'interne, je pense qu'il y a des gens qui commençaient à trouver qu'elle prenait pas mal de place et que malgré son titre de chef parlementaire, qu'elle se permettait parfois d'agir trop souvent comme la chef tout court. Et que ça commençait à déranger. Alors voilà, ça c'est un peu le insight, là.
Ouais, on a ça aussi comme information. Puis, tu sais, ce serait très décevant. Puis, honnêtement, elle jouerait un peu sa carrière politique si elle sortait rien. Si c'était pas grand-chose, en fait, qui ressortait de tout cet événement-là. Puis, tu sais, on le met encore au singulier, mais ça peut devenir de ces événements-là, en fait, parce que ça commence à tomber, là, les tuiles. Je pense qu'elle perdrait énormément de crédibilité. T'sais, elle perdrait cette aura-là de bonne politicienne, peu importe le parti dans lequel elle fait partie. J'ai l'impression que les gens la jugeaient pour qui elle était en tant que politicienne et non dans quelle formation elle évoluait. C'est rare qu'on voit ça en politique. Là, c'est quand tu l'as, tu veux le conserver un peu, là, cette aura-là. Si c'est rien, elle risque de le perdre. Qu'est-ce que tu penses de Pablo Rodriguez? Que Jeff et moi, on a essayé d'analyser son point de presse. Jeff était plutôt de la position que son leadership était manquant. T'sais, il n'était pas super en selle. Moi, il m'a presque convaincu qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait là, actuellement. Il est resté concis, direct, et ça a été très court comme point de presse. Tu évalues ça comment, toi?
Ben, j'évalue ça de la même façon que toi. Moi, si j'étais son responsable des communications, écoute, tu sais, la fameuse expression, toute vérité finit par se savoir, là. Tu sais juste pas par qui, puis quand, j'y crois foncièrement, là. Toute vérité finit par se savoir. Et donc, si j'étais son responsable des communications et qu'il y avait quelconque forme d'informations qui étaient out there, là, qui étaient entre les mains de quelqu'un, il faut absolument mettre ça sur la table, là, t'sais, parce que là, effectivement, c'est sa carrière politique qui est dans la balance. Et s'il fallait que des preuves tangibles sortent qui démontrent qu'il était au courant ou que le parti était au courant, c'est ciao bye mon cowboy,
Mais le
là.
crois-tu dans le point de
Part une question.
presse? Tu le
Comment?
crois-tu? La manière dont
J'ai
c'est...
pas le choix de le croire parce que, comme je te dis, moi, si j'étais son responsable de communication, je dirais, hey, mon gars, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu
Il
sais?
va le dire.
Si tu sais de quoi, on va le sortir maintenant, puis on va te protéger, toi.
Tu
Parce que
dirais de
s'il y a
même.
d'autres députés, tu sais, je veux dire, s'il y a d'autres députés qui ont de l'information, si Marois a de l'information, si telle autre personne qui n'est pas Pablo a de l'information, bien, tu as toujours l'option en tant que stratège de dire, bien, on va jeter cette personne-là en dessous de l'autobus, tu sais. Si la députée est dans le coin de Laval, la députée libérale qui aurait échangé les textos, effectivement, est derrière ça, puis Pablo a été mis au courant, puis il y a quelque part une information qui démontre qu'il a été mis au courant, un courriel, un texto, whatever, ben là, il faut absolument que tu rendes ça disponible, puis c'est plate, là, mais la députée t'ajoute en dessous du bus pour protéger, évidemment, la réputation du chef. Mais là, si le chef va aussi loin jusqu'à dire, écoute, 1, 2, 3, allégation, 1, 2, 3, tout est faux, ben mon gars, j'espère qu'il dit la vérité, parce que comme je vous disais, ça va finir par se
Ça va
savoir, et
finir
si
sur ça.
c'est effectivement pas vrai, ciao bye mon
Moi,
cowboy.
il m'a pas convaincu. J'aurais voulu qu'il frappe sur le lutrin, qu'il dise, écoutez-moi bien, c'est moi le chef. Puis il n'y en a pas de corruption au Parti libéral.
Ah, je
C'était le
pense qu'il fait bien de
passé.
rester calme. Je pense qu'il fait bien de rester calme. Là, ça doit être le feu doit être absolument pris présentement. Les députés n'ont pas de réponse. Ils voient ça sortir, ça sort dans les médias, les textos, bing bang. Non, non, je pense qu'il fait
Je suis
bien
trop
d'être très, très
impulsif.
calme. Mais encore une fois, j'espère pour lui qu'il est calme et que ce qu'il dit est la vérité
Oui.
parce que
C'est
sinon,
fini pour
c'est.
lui aussi, politiquement parlant, si c'est
Écoute,
faux.
puis ça
Ben
serait un
oui.
recul. Écoute, ça serait
Hein?
un recul immense pour le Parti libéral. Ça fait 10 ans que ce parti-là essaie de revenir, puis se détacher de cette réputation-là que la commission Charbonneau lui a collée, de parti qui faisait des manigances au niveau du financement politique. Ça fait 10 ans, Philippe Couillard avait quand même réussi à éloigner le parti de cette réputation-là. Mais s'il fallait revenir là-dedans, écoute, non seulement ce serait catastrophique pour le Parti libéral, mais messieurs, dames, ça vient complètement changer la dynamique pour les élections de 2026. Complètement, là. Les gens qui pensaient pas voter PQ, veulent pas de référendum, pensaient voter libéral, et ils disent « je vais pas voter libéral », ils vont voter pour qui? La CAQ! Mais non, ils sont écœurés de la CAQ. QS, c'est bien trop loin. Parti conservateur? Peut-être.
Peut-être. Ah, fait que là, tu vois une opportunité pour le Parti conservateur, là, Lambert
Ben, il y a
Blainville.
quelqu'un qui va devoir gagner quelque part.
C'est
Si,
clair.
même avant que ce soit avoué, puis qu'on ait les réponses à toutes nos questions, présentement, que je sois là en train de vous en parler, qu'on en discute sur toutes les tribunes, qu'il y a une éclipse médiatique qui associe Parti libéral à la corruption, c'est
Ben,
hyper
c'est ça,
dommageable.
c'est déjà volatile là, au niveau des
Exact.
votes. On parle avec Lambert Drainville, on parle avec lui à chaque mercredi aux alentours de 13h, l'émission d'En Jase. Et les vendredis, c'est le segment de débat avec Farnell Morrissey à compter de midi. Lambert, on passe d'un parti libéral à un autre, c'est-à-dire les libéraux fédéraux, qui ont réussi à faire adopter le budget avec une couple de personnes qui avaient quelque chose d'autre à faire que de voter pour un budget, là. Bon, un
Les as-tu
classique.
vus? Les as-tu vus? Il était caché derrière les rideaux.
Non! J'ai
Il les a
pas
pas
vu ça!
pognés. Je vais t'envoyer la clip de
Non!
ça. Oui,
Envoie-moi ça! Fait que...
Andrew Scheer puis le autre député, les deux députés conservateurs dans le fond qui se sont
Oui!
habitués, que le budget passe. Tes voix sont derrière les députés, il y a comme des rideaux. Puis tes voix dans la craque du rideau, ils se promènent puis ils
Ben
flexent. Ah
non!
ouais, c'est quand
Quel
même bon.
mauvais théâtre d'été! Pierre Poilievre, il n'y a pas juste son leadership qui est remis en question, son talent de metteur en scène aussi, là, ça n'a pas de bon
Ouais, c'est
sens.
ça. Ben
Come on,
écoute,
Pierre!
en même temps, tout le monde est un peu au courant, c'est un secret de Polichinelle, fait que
Ouais.
rendu là, que tu l'assumes, que tu assumes que c'est un secret de Polichinelle, ça en est juste drôle, si tu veux mon avis.
C'est ça.
Mais moi, je trouve que Jeff, c'est une opportunité manquée pour le Parti libéral, parce que moi, là, je me disais les derniers jours, moi, j'avais aucun doute que ce budget-là passerait parce que des partis de l'opposition, dans ce cas-ci, le NPD et le Parti conservateur, allaient se garder une petite gêne. Certains des élus n'allaient pas se présenter pour permettre au budget de passer parce qu'aucun des trois partis veut aller en élection. T'sais, un gouvernement minoritaire, ça dure en moyenne de 12 à 18 mois. Là, ça fait déjà 6 mois que Carney est là. Fait qu'on peut penser qu'il lui reste entre 6 et 12 mois avant la prochaine élection, si on se fie à la moyenne de combien de temps un gouvernement minoritaire dure. Tu regardais les sondages cette semaine. Carney, 52% des gens sont favorables à Carney, 39% défavorables. Donc, il est plus 13 dans l'opinion publique. Poilievre, 60% des gens qui lui sont défavorables et 34% favorables. Et ça ne va pas dans le bon sens. Plus ça avance, moins il y a de gens qui sont favorables à Pierre Poilievre. Il est à moins 26 dans le Angus Reid il y a quelques jours.
Hey, et donc, 39, dans une perspective. C'est 39 de différence quand tu prends les accords.
Exact, exact. C'est fou. Fait que tu te dis, le NPD n'ont pas d'argent, n'ont même pas de chef. Fait qu'ils sont certainement pas prêts pour aller en campagne électorale. Le Bloc ont un chef, mais on sait qu'ils n'ont pas énormément d'argent. Et le Parti conservateur ont un chef hyper impopulaire. Puis on sait que eux autres aussi, il y a de la cohésion au niveau du caucus. Si on parlait du Parti libéral du Québec, bien, au Parti conservateur du Canada aussi, on sait que c'est difficile. Tu as les députés qui ont quitté, qui pensent à quitter. Et donc, moi, je ne comprends pas. Moi, si j'avais été un stratège libéral, j'aurais dit à Carney, regarde, publiquement, les trois partis sont sortis puis ont dit, il y a telle affaire qu'on n'aime pas, on n'appuiera pas le budget, blablabla. Et même si on savait qu'il allait finalement faire des petites passe-passe pour que ça passe, ben moi, je serais sorti d'avance, en amont. Puis j'aurais dit, Mark Carney, t'envoies le pays en élection, puis tu dis, écoutez, chers concitoyens, mon budget, c'est le plus gros déficit que le Canada a jamais vu. Et les autres partis ont annoncé leur couleur. Ils disent qu'ils voteront pas pour. Donc, au lieu de le voir se faire battre, ben moi, j'envoie de façon préemptive le pays en élection et je vous demande de voter sur mon budget parce que j'ai besoin des reins solides pour combattre Trump.
Mais penses-tu que ça aurait fonctionné avec ce déficit record-là puis la guerre tarifaire qui n'est pas réglée avec les États-Unis? On dirait que j'ai des doutes, moi, sur cette stratégie-là.
Mais il y a toujours un risque quand tu pars en campagne électorale qu'il arrive une twist et que ça vire mal. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, est-ce que selon toi, c'est. Je vais te renvoyer la question. Est-ce que selon toi, c'est possible, considérant que M. Carney est un peu sur encore sur sa, la fin de sa lune de miel puis que tranquillement, ça commence à descendre? Est-ce que ça va aller en montant ou en baissant?
Oui, en effet. Puis c'est sûr que quand je voyais les taux d'approbation au Québec et en Ontario, il y avait une bonne possibilité de majorité. Là, je me range derrière toi là-dessus.
Exact. Fait que moi, je me dis, il aurait dû prendre une page du livre de Doug Ford en Ontario qui avait déclenché les élections quand ça commençait à brasser avec Trump pour dire, ben, ça brasse avec Trump, j'ai besoin d'un mandat fort, j'ai besoin que les Ontariens votent pour moi, puis il avait déclenché les élections plus tôt. Ça avait été extrêmement favorable pour lui. Si j'avais été stratège libéral, j'aurais fait la même chose.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se calme après Noël, tout ça? Parce que j'ai l'impression que les valves sont ouvertes dans tous les paliers politiques de gouvernement en ce moment. Puis on fait un peu ticlin, puis j'ai pas envie d'en avoir ce constat-là, mais dans la façon dont on gère nos choses, on n'a pas l'impression qu'on ait deux mains sur le volant, si je peux reprendre l'expression.
Je comprends pas, Pascal, si tu veux préciser ta pensée.
Le Québec, là, en ce moment, autant au provincial que dans l'apparence au fédéral, que même dans l'apparence avec les États-Unis, on fait un peu victime, là. T'sais, c'est comme si on n'avait pas les mains sur le volant, sur la façon dont on va se démerder là-dedans, qu'on va continuer à avancer. Puis je me demande à quel moment ça va arriver à terme, ça. Cette façon-là de voir les choses, qu'on n'a pas les deux mains sur le volant.
Ben depuis le début, je pense tout le monde est au courant qu'on n'a pas les deux mains sur le volant, dans le sens où on fait face à un ancien allié qui est soudainement devenu hostile. Les États-Unis, évidemment, qui font toute notre frontière, qui sont notre premier partenaire commercial, qui sont la première puissance mondiale. Donc, depuis le début, on sait qu'on n'a pas toutes les cartes dans notre jeu. Et depuis le début, c'est ce qui fait d'ailleurs en sorte que Carney demeure avec un taux d'approbation très élevé, malgré qu'il n'ait pas livré sa fameuse promesse de s'entendre avec Trump, parce que les gens comprennent que ce n'est pas un négociateur normal, que c'est un peu un dictateur, mais que c'est en tout cas un autocrate en devenir, que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les droits des femmes, pour les droits de la personne, qui n'a aucun respect pour les institutions. Et donc, depuis le début, on est un peu dans cette position-là qui est très délicate d'essayer de pas se le mettre à dos parce que dès que tu dis quelque chose de négatif sur lui, ben il peut t'envoyer une hausse de tarifs dans les dents aussitôt venu. On sait que ce sont des géants comparativement à nous. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Puis, c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que les Canadiens se sont autant tournés derrière le Parti libéral à un moment où est-ce que personne n'y croyait, là, tu sais, le fameux, c'est quoi déjà l'expression, « rally around the flag effect », quand ta nation, ton pays est menacé par un ennemi, par une menace étrangère, le réflexe généralement des électeurs, ça va être de se recroqueviller sur le gouvernement en place. Il était le Parti libéral à ce moment-là, très impopulaire sous Justin Trudeau, finalement réussi à rentrer à cause des circonstances et de cet effet-là de rally around the flag, de les gens ont tellement eu peur qu'ils ont dit, hey, nous autres, on ne changera pas de gouvernement, on va garder le Parti libéral, d'autant plus qu'ils ont un
Ouais,
nouveau chef.
puis Pierre Poilievre qui avait à ce moment-là une aura beaucoup plus de quelqu'un qui conteste et qui divise à la Donald Trump que Mark Carney.
Exact. Puis c'était un moment où les gens ne voulaient pas se diviser, voulaient justement se serrer les coudes. Team Canada.
Oui.
Fait qu'écoute, Pascal, c'est pas une question facile, mais moi, je pense que nos gouvernements présentement font ce qu'il y a de. Font leur gros possible dans le contexte actuel qui est vraiment pas évident. Puis bon, ben, si tu regardes du côté de l'Ottawa, ben, c'est sûr que tu as une situation plus stable que du côté du gouvernement du Québec, là, où est-ce que. T'as un gouvernement qui est visiblement très, très usé et des partis de l'opposition qui essayent de prendre le dessus. Mais pour l'instant, tu en as vraiment juste un qui réussit
À s'en
à
sortir.
se
Ben,
positionner comme une alternative, si tout le monde.
disons que c'est une petite marche pour le PQ à présent avec François Legault qui s'accroche au pouvoir à la CAQ et présentement ce qui se passe au niveau du Parti libéral du Québec avec ce scandale de peut-être corruption dans l'élection de
Mon
Pablo
gars, c'est
Rodríguez à la
sérieusement,
chefferie.
là, c'est. Je trouve ça. Écoute, c'était tellement sorti de nulle part, là. C'était tellement sorti de nulle part. Ça vient, comme je te dis, complètement changer la dynamique pour les prochains mois. Et voyons voir combien de temps ça dure. Parce que, comme tu l'as toi-même dit, il va falloir avoir des réponses rapidement. Ça ne peut pas durer 6 mois, cette
Ah non,
affaire-là.
non. Le pire pour le Parti
Personne.
libéral, c'est que ça s'étire dans le temps et que la corruption leur colle à la peau encore une fois.
Exact. Il n'y a personne qui
Non.
va écouter quoi que ce soit de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont
C'est
proposer,
ça.
tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse à savoir est-ce qu'ils sont en
Ouais.
faute ou pas et qui est en faute.
Il y a deux mots qui collent négativement au Parti libéral du Québec, c'est austérité et corruption. Fait que là, il y en a un qui est revenu dans l'actualité.
Ouais, c'est ça, exactement. Faut
Hey,
qu'il reste loin de ces deux concepts-là.
Drainville, toujours un plaisir, mon ami. On se reparle vendredi dans le segment débat avec Farnell Morisset dès midi à l'émission L'en jase.
Ouais, toujours très le fun, la gang. On se
Yes.
voit.
Salut, mon
Bye-bye.
chum. Bonne journée.
Salut.
C'était Lambert Drainville, ex-stratège justement pour la CAQ, pour le Bloc québécois également. Donc, toujours intéressant d'avoir son avis de l'intérieur. Pascal, je te propose qu'on fasse une pause. Après ça, là, tu sais, quand je te parlais de leadership de Pablo Rodriguez, là, ben, je vais te faire entendre Patrick Roy derrière le banc des Islanders.
Ben là, il a pété une coche.
Je vais te
Ça, c'est
montrer
ton
mon
genre.
leader.
Ah,
Je vais
vas-y.
te montrer mon homme qui défend sa
Ouais, je
gang.
comprends pourquoi on n'a pas la
Un
même vision.
poing sur l'utrin. Je vais te faire entendre ça.
OK.
Tu vas capoter. Tu vas dire, Jeff, je suis avec toi.
Je sais pas. Moi, le premier point de ça, j'étais comme, ben là, on se calme sur
Tu
Roy,
vas
là.
dire, Patrick.
Patrick Roy,
On
là.
s'ennuie tellement de Patrick à
Patrick
Québec.
Roy, on respire. Moi, j'ai dit, on respire, là. On peut se montrer grand leader,
Ouais.
puis sanguin d'une autre manière, qui a foutu un poing sur
C'est ça.
l'utrin, mais bon.
Je dois te faire entendre ça. Il y a une première aussi dans la Ligue nationale hier qui s'est produite en 80 ans et ça concerne deux joueurs canadiens, deux jeunes joueurs de hockey canadiens. Je te parle de ça après la pause. Puis je pense que toi, tu veux me parler liquidation extrême. Qu'est-ce que c'est? C'est qui donc ça,
Est-ce que
liquidation
vous en
extrême?
souvenez de liquidation extrême, puis des manifestations, puis des gens qui se disent floués? On a du nouveau.
Ouais, puis je veux que tu me parles aussi de la remise du chèque hier. Moi, je veux
Oui.
savoir le montant. Va falloir que tu me dévoiles ça après la pause.
Avec plaisir.
Excellent! Vous êtes à l'émission L'en jase sur Boulevard 101.